Radio Okapi. Okapi service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission Okapi Service. Et nous allons, on s'intéresse à la question de la préservation des forêts du bassin du Congo dans la province de la Tchopo. Nous avons comme invité Jean Foundi, journaliste d'investigation sur les questions des forêts dans la province, dans cette province de la Tchopo. Jean Foundi, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Bienvenue dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants pour savoir comment préserver les forêts du bassin du Congo dans la Tchopo. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Jean-Claude Yala est à la mise en onde. Marcel Ngombo assure la coordination de cette émission. Tati Mapoukou est à la réalisation. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Le paysage des Yangambi est très connu pour sa réserve de biosphère avec 235 000 hectares de forêt. C'est l'une des aires protégées menacées par la déforestation. Une forte pression est exercée sur cette réserve par la population riveraine qui veut obtenir les charbons de bois et les bois d'échauffe. L'exploitation forestière à grande échelle sans respect cycle de renouvellement des essences forestières a impacté négativement les forêts primaires de la région. Alors, pour préserver ces forêts exposées à la prédation, des ONG qui travaillent dans l'environnement y affluent pour lutter contre la déforestation. Alors, comment préserver les forêts du bassin du Congo dans la Tchopo? On en parle avec Jean Foundi, qui est journaliste d'investigation sur les questions des forêts dans la Tchopo. Jean Foundi, bienvenue dans cette émission. Alors, quel état des lieux vous faites des forêts du bassin du Congo, je veux dire de la réserve des biosphères des Yangambi?
Au Bamo, la province de la Tchopo, précisément dans le carré qu'on appelle le paysage des Yangambi, qui se trouve entre... qui s'étend dans plusieurs territoires, c'est-à-dire c'est le carré qui va de la cité d'Isangi à Yanongé, c'est à 62 kilomètres à l'ouest de Kisangani, à Kisangani même, qui part vers Bengani, ça à 10 kilomètres vers le nord, et qui relie Yangambi à 100 kilomètres à l'ouest de Kisangani, et jusqu'à fermer le carré sur la cité d'Isangi. Alors, au départ, on appelait ça la biosphère des Yangambi, mais avec le temps, j'ai appris dans le reportage que je venais de réaliser avec le fonds de RJF, Rainforest Journalist Fund, en partenariat avec Polygat Center, qu'ils ont élargi le concept à ce qu'on appelle le paysage des Yangambi. Alors, dans ce paysage, deux vagues d'organisations environnementales y affluent depuis avant 2010. Il y a des ONG qui ont ouvert le programme RED. Il y a des ONG qui sont venus dans la deuxième moitié de la dernière décennie. Ils sont des ONG qui travaillent sur le très long terme. Je peux citer Fortenbos RDC, je peux citer CIFOR ICRAF, je peux citer Erabel qui sont financés par l'Union européenne. Donc ce que nous avons trouvé, il y a vraiment, comme vous l'avez dit, et c'est connu de tous, que c'est une région qui se trouve à Califourchon entre sur le fleuve Congo, ce qui fait qu'à l'absence même des routes, les forêts sont subissent de la pression et tous les produits de forêt peuvent être acheminés par le fleuve via les cours d'eau, soit en aval vers Kinshasa, soit en amont vers Kisangani. Ce qui fait que la coupe du bois, pour des raisons, pour des besoins de charbon, pour des besoins de bois de chauffe, pour des besoins de bois d'œuvre, la coupe du bois est vraiment très intense, de sorte que les ONG ont apporté une réponse que moi j'appelle appropriée, puisqu'en fait, ils sont en train de convertir ceux qui font la pression sur la forêt à d'autres métiers. Par exemple, si on regarde du côté de Seafor Highcraft, ils sont en train de former des apiculteurs qui élèvent des abeilles, tous les acacias qu'on a plantés dans le paysage de Yangambi. Et s'il faut faire les comptes, Seafor a déjà planté 2 500 000 arbres, dont des acacias, qui permettent aux apiculteurs d'élever des abeilles et de faire de la commercialisation du miel qui est déjà vendu à Kisangani parce que le commerce existe déjà. Mais aussi, à partir de ce bois-là, les acacias, il y a une usine qui va bientôt fonctionner à Yangambi. C'est une usine de cogénération d'électricité qui va produire de l'électricité rurale à base de la biomasse. C'est-à-dire, les propriétaires des champs qui sont des paysans qui ont bénéficié de l'accompagnement des ONG vont couper leur acacia, les vendre à l'usine qui va les broyer pour en faire une sorte de carburant pour lancer l'électricité. Et l'usine est presque à la fin de son achèvement. D'ici là, je pense qu'on pourra lancer l'électricité pour Yangambi après plusieurs années d'absence d'électricité. Mais il y a aussi Top & Boss, qui est une ONG financée par la Hollande, je pense, qui travaille à 30 km de Kisangani, à l'ouest de Kisangani, sur des vieilles plantations de palmiers abandonnées, à y mettre des cacaoyers. Et nous avons approché les paysans, ils ont accepté qu'ils ne connaissaient pas le cacao, que cette fois-ci, ils ont compris et qu'ils sont contents de cet accompagnement. Comment ça se fait? Ils espèrent d'ici 3 ans, pendant un an de production, un villageois pourrait gagner 3 000 $, au bas mot, en moyenne 3 000 $ par an, ce qui est largement au-delà des revenus que leur apporte le charbon de bois et le bois de chauffe, et même pour certains, le bois d'œuvre. Donc, c'est ce qui se développe dans ce carré. Mmh. Si vous allez déjà à Yanongé, à 60 km à l'ouest de Kisangani, et disons sur la rive gauche, en aval du fleuve Congo, il y a déjà des femmes qui travaillaient dans le charbon, qui travaillaient dans les champs itinérants sur Bruibi, se sont reconverties en piscicultrices. Parce que je me rappelle, avant que je ne fasse le reportage financé par Leader Center, je suis allé là-bas tourner un reportage, un documentaire d'Enabel, qui est un programme de la coopération technique belge. Je vis des femmes abandonner les champs, faire la pisciculture. J'ai vu déjà des ONG venir s'agripper à ce programme pour donner des emplois aux piscicultrices pour développer la pisciculture.
Oui. Alors dites-nous, Jean Fondi, oui, vous avez dit tout à l'heure, il y a des ONG qui ont développé des activités alternatives pour préserver la forêt. Notamment, vous avez parlé de la plantation des acacias. Et des gens qui s'élancent dans l'élevage des abeilles. Alors, pourquoi toujours l'acacia? Est-ce qu'on peut dire que c'est une essence qui présente beaucoup plus d'avantages par rapport aux autres essences?
Bon, la réponse, je l'ai aussi posée au responsable de ce qu'on appelle le laboratoire de biologie du bois, qui est un programme de recherche qui a été installé à Yangambi. Oui. Mais ce n'est pas Luambo nous a dit que ce sont des espèces à croissance rapide. Ce sont des arbres, vous les plantez en 3, 4, 5 ans, ils sont matures, on peut les couper, ils repoussent pour que le paysan n'ait pas beaucoup à attendre, de tirer des bénéfices. Ça, c'est la première raison. La deuxième qui m'a été donnée par l'ingénieur John Dimalonda, qui s'occupe de la ferme pilote de Seafor, c'est que l'acacia peut aussi, et ses feuilles peuvent constituer de l'engrais pour fertiliser les sols en termes simples, c'est-à-dire on les plante à côté des produits vivriers comme le riz, etc. Ça fait que c'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est des acacias associés aux cultures vivrières. Donc, pour faire une parenthèse, ce n'est pas selon eux une plantation d'arbres comme on en connaît dans le monde industriel, mais c'est une plantation adaptée aux besoins du milieu. Donc, il y a l'acacia, il y a d'autres espèces, mais l'acacia, principalement, c'est exotique, c'est-à-dire c'est une espèce venue de l'étranger qu'on a adaptée au milieu qui fait bien l'affaire, parce que si vous avez eu l'occasion de voir le film, je peux vous l'envoyer à la fin du montage, vous verrez qu'il y a des agricultrices qui plantent du manioc, des arachides, à côté des acacias. Il y en a même qui ont déjà vendu des acacias à l'usine de cogénération. Là où nous sommes rendus, Monsieur Alain Guériot, qui est responsable de l'implantation de l'usine, nous a montré comment on est en train de broyer ce bois-là pour en faire une biomasse. Donc, c'est quelque chose de concret. C'est ça la raison. Bon, pour le reste, je peux rentrer même au niveau des Yaoseko, où se trouve l'ONG Trop and Boss RDC. C'est la même pratique. Mmh. C'est-à-dire, pour eux, il faut faire vite pour que les paysans ne soient pas impatients. Parce que dans le temps, il y a eu des programmes comme ça qui avaient abouti d'une manière quelconque parce que les paysans étaient à bout de patience. Mmh. Donc, il y avait ça. Mais aussi, les acacias, puisque selon les termes que nous avons perçus dans l'engagement de ces ONG, que ce soit Enabel, que ce soit Fortenbos, que ce soit Sifor, c'est le fait qu'ils sont engagés sur le très long terme. Vous avez compris? Parce que vous savez, c'est depuis 2017 que ces ONG sont là, ou pour certaines, mais jusque-là, elles sont là. Jusque-là, elles ont renouvelé un autre programme. Donc, avec l'acacia, ça fait une bonne affaire. C'est déjà expérimenté. Ça vous donne aussi du miel. Ça vous donne du bois de chauffe. Ça vous donne de macala, du charbon. Ça vous donne aussi de l'argent parce que vous pouvez le vendre pour qu'on en fasse de la biomasse en vue de produits d'électricité.
Oui,
voilà
Jean
les quelques
Fondi.
Raisons qu'on
oui.
a avancé pour le choix de l'acacia.
De l'acacia. Mais Jean Fondi, nous savons que les populations riveraines ont déjà développé certaines habitudes. C'est la forêt. Ils vont y tirer toutes les ressources, leur subsistance. Est-ce qu'aujourd'hui, ça demande un vaste programme pour amener les gens à changer les habitudes et à adhérer à tous ces programmes qu'on amène, l'acacia et autres, et ne plus exercer la pression sur la forêt.
Mais c'est vrai que vous avez raison de part en part. C'est aussi question de responsabilité. Je pense que les ONG ont fait leur part, puisque j'ai posé la même question, comme si vous étiez sur terrain, franchement. Vous êtes en train de poser la même question que j'ai posée aux responsables des ONG. Le prof Maindo, par exemple, le directeur de Trop and Boss RDC, et M. Paolo Terruti, le responsable de CIFOR, m'ont dit en substance que ce n'est pas leur rôle d'interdire aux paysans de jouir de la forêt. Puisqu'en fait, la forêt, c'est leur magasin, comme vous venez de le dire, c'est leur quincaillerie, la forêt leur donne tout, c'est leur ressource. Mais ici, c'est d'atténuer la pression, de réduire la pression sur la forêt. Ils sont en train d'y aller. Mais alors, il reste que l'État congolais puisse aussi appliquer les lois qui sont déjà légiférées sur la réglementation de l'accès aux ressources naturelles. Et je pense que c'est ça la problématique. En même temps, ils sont en train de faire tout pour combattre la déforestation. De l'autre côté, il faut que l'État fasse un effort de contraindre un peu, de réglementer l'usage, disons, l'exploitation des ressources naturelles par les paysans, tout en y regardant de près que les paysans ne puissent pas manquer de beaucoup parce que c'est leur première source de revenus. Voilà comment la problématique se présente. C'est question de responsabilité. Les ONG font leur part. Les paysans doivent aussi faire leur part. L'État congolais doit aussi faire sa part.
Bien. Est-ce que ce que les ONG font comme travail, est-ce que c'est suffisant pour arriver à freiner la pression sur la forêt?
C'est relativement suffisant puisque tel que je l'ai vécu, même sur drone, même dans l'observation de la cartographie qui est récente, je pense que quelque chose est en train de bouger. En fait, on n'en est que là. Je pense c'est depuis 2017 pour Sifor et depuis 2 ans pour Trop and Boss et depuis, je pense, 5 ans pour NAB. Je pense qu'il y a une tradition qui s'installe. Il y a une partie des paysans, même s'il y en a qui ne croient pas encore à l'agriculture sédentarisée, qui sont toujours dans l'agriculture itinérante sur Brilly. Mais vraiment, il y a des paysans, une partie des paysans qui croient en ça, qui ont déjà les bénéfices. Et tout ce que les responsables de ces ONG nous disent, ils espèrent que ça sera tâche d'huile, bien sûr, avec la responsabilité de l'État. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, monsieur le journaliste, c'est une première, parce que depuis plus de 15 ans, on n'en est pas arrivé là. Vous voyez, l'agroforesterie a réussi pour la toute première fois, parce que ça a été expérimenté autour de Kisangani, vers l'Oubouyabera. Ça n'a jamais été vraiment un succès. Mais je pense que cette fois-ci, c'est quelque chose qui a pignon sur rue. Et c'est là où on mise, c'est de dire qu'on a fait quelque chose et ça va faire tâche d'huile. Et avec l'engagement sur le très long terme, moi je pense qu'il y a lieu d'espérer que la pression totalement arrêtée, qu'on la refaine, puisqu'en fait, on est en train de convertir les gens qui font la pression à autre chose, comme je vous l'ai dit, en apiculteur, en planteur de cacao, etc., etc.
Bien, vous voulez participer à cette émission, nous parlons de la préservation des forêts du bassin du Congo dans la Tchopo. Vous voulez participer, vous avez des questions et préoccupations, bien, composez les 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Comment préserver les forêts du bassin du Congo, particulièrement dans la province de la Tchopo? Nous parlons du paysage des Yangambi et avec Jean Fondi, journaliste d'investigation sur les questions des forêts dans cette province. Alors Jean Fondi, vous avez dit les activités alternatives qui sont proposées pour réduire la pression sur la forêt. Il y a d'abord la plantation des acacias, qui sont des espèces à croissance rapide. Vous avez parlé de l'acupuncture, les gens qui font l'élevage des abeilles. Alors, comment ça se passe? Vous avez fait des investigations là-dessus. Comment ça évolue, cette sorte d'élevage?
Bon, ça se passe ainsi. Mais avant que je réponde à cette question, je dois rajouter quand même, parce que votre dernière question me donne à réfléchir sur la tâche de l'extension de cette pratique, même en milieu urbain. Je peux maintenant vous parler d'une concession de 18 hectares. Il y a des acacias et des terminalias d'une taille de 15 à 20 mètres, mais à Kisangani, fait par l'ONG SOS Natif, c'est dit solidaire organisé pour sauver la nature, qui est dirigé par le professeur congolo-canadien Jean-René Makana. C'est des acacias qu'on plante en milieu urbain, qui est une première expérience. Donc, cette expérience, c'est que, pour revenir à votre question de tout à l'heure, les apiculteurs ont été, disons, identifiés parmi les collecteurs sauvages de miel. Alors ces collecteurs faisaient quoi? Ils allaient dans les forêts, ils y passaient la nuit, ils brûlaient les abeilles. C'est qui faisait que les abeilles mouraient et puis il y avait la pollution. Et les abeilles qui ont un rôle d'ensemencement de la forêt mouraient, ça n'était pas bon. Mais on les a prélevés, on les a réorientés. Ils sont une centaine qui travaillent là-dessus, mais qui ont été dotés de tout le matériel qu'il faut. J'étais sur le terrain à 15 km au nord de Yangambi. Nous avons pu capter les images des apiculteurs de leurs maîtres, isolément, qui étaient en train de récolter le miel. Et à Kisangani, il y a des gens, nous avons suivi la chaîne jusqu'à Kisangani, où nous avons trouvé des gens qui achètent ce miel empaqueté, s'il vous plaît, et estampillé, et même Yangambi. Et tout dernièrement, notre reportage, je pense, il y a 3 ou 1 mois, ils ont maintenant installé une sorte de, ce qu'on appelle une miellerie, qui est une structure, une sorte de raffinerie pour traiter le miel brut de façon à le raffiner pour qu'il soit, compétitif sur le marché. Donc c'est quelque chose qui avance. Au niveau des Yanongé, il y a des arbres, mais les pisciculteurs aussi font le travail. Donc ce que je dis, il n'y a pas que ça. Je vais aussi parler de Benabel, qui a initié des semences à croissance rapide comme l'Onerica. Aujourd'hui, dans le territoire de Yanga et de Bisangui et de Banalia, par exemple, les cultivateurs peuvent faire 3 saisons de riz. Donc, au lieu d'utiliser le riz en ancienne formule qu'on appelle le kitombé, c'est 6 mois, mais ils ont ce qu'on appelle le nerika, ils font 2 à 3 saisons de récolte de riz par an. Il y en a même un à 10 kilomètres au nord d'Ixangui, Banalia, qui a abandonné le travail d'instituteur, qui a même construit une maison en matériaux durables parce qu'il s'est reconverti dans la plantation du riz dans le bas-fond. Donc c'est un travail qui s'est fait, il s'est reconverti, sauf que bien sûr, il y a un quoi que quelque part, il y a des gens qui ont développé une autre sorte de culture, c'est la canne à sucre. C'est là où je disais que c'est la responsabilité de l'État. Si vous allez vers Yangambi, il y a un phénomène nouveau de fabrication de l'alcool à base de canne à sucre. Alors beaucoup de paysans et de paysannes développent des champs comme ça, c'est incontrôlé, ils brûlent des champs, de nouveaux espaces pour faire des champs de canne à sucre dont ils tirent la sève pour faire de l'alcool qu'ils vont vendre en aval du fleuve Congo. Donc les deux cohabitent, hein. Il y a d'une part les gens qui luttent contre la déforestation et des paysans qui suivent le pas. Il y a de l'autre des paysans qui ne suivent pas et l'État qui, excusez-moi le terme, c'est comme s'il fermait les yeux sur les crimes environnementaux qui se passent aux vies aussi de tout le monde.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire réellement que l'apiculture ou la culture du miel est rentable?
Oui, c'est rentable puisqu'en fait, c'est 3-4 récoltes par an. Ça vous fait une fiole de 3 dollars, une fiole de 10 dollars. Franchement, une fiole de 3 dollars, c'est... vu la qualité, c'est le quart, je pense, d'une bouteille d'une bière, hein, d'une grosse bière, hein, dans nos brasseries. Mmh. Et puis, il y a du miel à 10 dollars. Mais la différence, c'est que les gens commencent de plus en plus à préférer le miel, le miel raffiné que le miel brut qu'on amène on récolte de manière sauvage, puisqu'en fait, la qualité est différente, hein. Ce miel-là, il est brut. Soit il est dilué par autre chose, mais ce miel-là, moi-même je l'ai essayé, il y a une différence franchement de qualité, et je pense que c'est cela qui fait la différence.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Malonga est environnementaliste, il nous appelle des Bandundouville, et Justin Kalabia de Bounia. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui, et bon retour dans votre cadre de service.
Merci.
Et bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Merci Malonga. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la préservation des forêts du bassin du Congo dans la Tchopo?
Bon, ce que je peux dire, vous voyez, notre confrère qui vient de nous expliquer, de nous détailler tout ce qui se passe là, en tout cas, félicitations. Nous tous, nous ne sommes pas des Tchopo, mais nous avons des renseignements si récents. La négligence aussi des services étatiques, ce qui là aussi soulevé, et c'est le discuteur, environnemental, il y a de la négligence et de ce que nous appelons à notre jargon des termes de la congolité, le coso. Puisque l'État, les agents qui sont là, les agents de l'État, surtout environnementalistes, ils savent que non, leurs domaines sont pollués. Alors, ils sont là, si on leur amène seulement quelque chose comme ça, on laisse. Nous sommes aujourd'hui sur la lutte pour la protection de nos forêts. C'est tout nous qui constitue vraiment la réserve mondiale.
Malonga, quelle est la question que vous adressez à l'invité par rapport au sujet du jour?
Bon, la question est là. Lorsqu'il y a la négligence de la part de ceux qui doivent protéger ce qu'on doit protéger, qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce que la population est toujours population. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais s'il y a un civisme environnemental du domaine là, on doit attendre quelque chose. Mais s'il n'y a pas un civisme, il y a une différence entre éducation et civisme. Dans l'éducation, vous indiquez que la tête n'entend pas au reste. Mais dans le civisme, il doit y avoir des principes, des lois imposées à la population pour ne pas faire ceci. En cas de faire au contraire ce que la loi fait, il doit y avoir des sanctions. Alors, cette légèreté, qu'est-ce qu'on peut continuer à le gérer jusqu'à où et comment et pourquoi on laisse comme ça.
D'accord. Merci Malonga. Justin Calabia, bonjour.
Bonjour monsieur, aujourd'hui, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs auditrices de Radio Capri.
Vous êtes à Bounia, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Merci monsieur, aujourd'hui de m'avoir associé en tout cas à cette débat. Hein. C'est très, l'émission est très pertinente monsieur, aujourd'hui. Oui, à ce que je sache, par rapport aux préservations des forêts du Bassé et du Congo, particulièrement dans la province de la Tchopo, monsieur, aujourd'hui, avant que je procède à ma question, j'ai certains témoignages que je vais donner par rapport en tout cas et à ce sujet. Je pense qu'en République démocratique du Congo, nous avons en tout cas des grandes forêts. Nous avons des forêts, nous avons des aires protégées et tout est là. Mais nous n'avons pas de bons gestionnaires. Et donc, nos autorités nomment les gens, quels que soient les environnementalistes, pour protéger soit nos richesses par sentiment. Vous voyez, quand je vois Banabia vers Kisangani, je vois en tout cas cette grande forêt qui est là, mais les gens utilisent ça anarchiquement. En tout cas, ça ne me plaît pas. Ma question est celle de savoir, monsieur Jodin, depuis que la RDC, depuis que la province de la Tchopo a en tout cas s'est basé au Congo, la RDC a gagné quoi? Ou bien cette province de la Tchopo a gagné quoi concrètement? Fallait que l'invité nous explique que non, le passé du Congo, ici, la population de la RDC a gagné quoi? Deuxième question. Vous voyez que nous avons beaucoup de aires protégées, nous avons beaucoup de forêts. Mais lorsque nous n'avons pas de bons personnels, et puis ce sont eux qui sont à la base même de la gestion même de ces pays. Si le pays est en débattant, si le pays est en train d'enfoncer davantage, moi je suis sur certaines nominations que les gens font par rapport aux gens qui n'ont pas du domaine. Parce que monsieur, je dis, à ce que je sache, lorsque vous nommez quelqu'un un environnementaliste, vous nommez quelqu'un soit pour protéger quelqu'un comme ça, que les avantages soient partagés. Mais il n'est pas du domaine. Est-ce que vous savez que vous aurez un résultat escompté? Non, le résultat sera toujours mitigé. Alors, l'invité nous dit qu'est-ce qui est à la base pour que la RDC ne puisse pas se développer. Or, nous avons toutes les potentialités du monde. Merci, monsieur Jody, et bonne journée.
Merci, Justin Calabia. Jean Foundi, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je salue d'abord Justin Calabia. Merci pour ces deux questions. De par notre reportage, nous parlons des faits. En fait, depuis 2004, plus de 2500 paysans dans des locaux, membres de la communauté locale, ont trouvé ou travaillent dans ces projets-là. Ça, c'est une première chose. Si vous allez du côté, dans les projets qui se trouvent à Yangambi et sur la route de Yangambi Kisangani, parce qu'il y a Propenbos et Sifor Craft, mais il y a aussi l'ONG Congo Flux qui a implanté la première tour à Flux pour mesurer les échanges des gaz entre les forêts du bassin du Congo et l'atmosphère, mais aussi accompagné par l'ECAFOR qui est un laboratoire qui travaille dans le même sens par le professeur J.R. Makana. Ce que les populations gagnent, c'est d'abord ça, il y a du travail.
Oui, vous êtes là? Monsieur Jean Foundi? Bien, il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique.
Gagne aussi, c'est le riz. Oui. Principalement, cette zone est devenue parmi les principaux fournisseurs de riz. Parce que avec le riz à croissance rapide, je pense que beaucoup de riz vient de là. Il gagne, mais il gagne aussi parce que ces paysans, comme je le dis, ils coupent l'acacia, ils le vendent à l'usine, ils gagnent de l'argent, et l'usine en fait de la biomasse. Ils gagnent aussi parce qu'ils vont faire du charbon, ils gagnent aussi parce que ils ne vont plus se promener dans la forêt, vagabonder pour chercher de nouvelles terres. Pour ceux qui sont d'accord, il s'agit aussi de ça, de la sédentarisation de l'agriculture. Je pense que tout le monde gagne. Si un espace qu'on a saccagé du fait d'avoir mis à terre les vergers, tout, on a brûlé les forêts. Si quelqu'un plante plus de 2 500 000 arbres, les gens gagnent quelque chose, parce que c'est aussi gagne. Mais Obama, c'est pour dire que ça prend du temps. J'ai parlé, j'ai essayé d'analyser, j'ai discuté avec les responsables. Je me suis rendu compte que ça doit prendre du temps et que ce n'est pas du jour au lendemain que les grands effets vont se faire voir. Mais au moins ici, on voit qu'il y a un engagement. C'est différent de la fois passée. Pour répondre à sa question de responsabilité des forêts, de l'État, mais ça c'est connu. Puisqu'en fait, même les agents de l'État sont jugés partis. C'est ça justement, puisqu'on ne peut pas couper du bois, comme il le dit anarchiquement, sans que l'État ne le fasse. Et si ça se fait, sans qu'on ne punisse personne, parce que quelque part, l'État doit avoir fermé les yeux. Cette dialectique-là, elle est vraiment à revoir. Mais comme le dit monsieur le journaliste, c'est pas aux ONG d'interdire aux gens d'utiliser leur forêt. C'est à l'État de réglementer ça. Et il y a lieu de réglementer ça. Bon, quand aux ONG, aux gens qui sont compétents ou non dans l'environnement, je pense que c'est... Je minimise cet aspect, puisqu'en fait, même ceux qui sont responsables, même ceux qui sont compétents en environnement, qui ont été formés en telle ou telle branche de l'environnemental, ils sont aussi responsables, quelque part, de ce que nous vivons, la lenteur des actions qu'on est en train de mener contre la déforestation. Donc tout le monde est responsable, mais il s'agit maintenant de prendre conscience. Et je pense que les ONG aujourd'hui, que j'ai investigué, sont en train d'aller de l'avant. C'est tout ce que moi je peux dire. Pour le reste, il y a beaucoup à faire. Il reste à faire.
On va accueillir Mme Claudia de Colosie. Bonjour.
Bonjour, M. Jody. Bonjour à l'invité. Pour ça, je remercie premièrement l'invité. Je vous remercie pour tout le travail que vous faites pour conserver l'environnement. En fait, j'essaie de répondre à la problématique et comment préserver les forêts du bassin de Songo dans la Tchopo. En fait, je pense qu'il faut promouvoir des métiers verts. Vous savez, dans notre pays, quand on parle de métiers verts, on voit que la population des communes rurales. Mais ça ne devait pas être le cas. Il faut vraiment promouvoir ces métiers de sorte à attirer beaucoup de jeunes. Et aussi, nos institutions universitaires devraient aussi penser déjà à introduire beaucoup de filières pour, en fait, préserver les forêts du bassin du Congo. On est une pays solution, bien sûr, mais une pays solution au changement climatique avec une population inconsciente qui se contente de déboiser sans reboiser. La population n'est pas vraiment consciente des enjeux du changement climatique. Il faut vraiment une éducation, une sensibilisation à la gestion de nos forêts. C'est un peu ça ma préoccupation. Et aussi, je demande à l'invité, s'il peut un peu nous donner le nom de votre ONG pour que nous puissions vous suivre. Vous avez cité aussi beaucoup d'ONG, mais je ne connais que Sifor Akraf. Les autres, je n'ai pas retenu le nom. Si vous pouvez un peu nous le donner. Merci.
Bien, M. Jean Fondi.
Oui, merci beaucoup, ma sœur. Toutes les bonnes choses là où vous trouvez. Vous avez raison de dire que les gens sont inconscients. Oui, inconscients du fait de l'ignorance, moi, je pense. Mais quant au métier vert, je me rappelle qu'il y a 2 mois, le Centre Pulitzer Center a initié un atelier de beaucoup de 3-4 jours. Bon, en des temps différents, ça faisait en tout 4 jours, où on a parlé aux jeunes des métiers verts. Et c'est à Kisangani. Il y a aussi un autre atelier qui a précédé sur la pédagogie environnementale. Aujourd'hui, il y a des écoles que je connais qui commencent à travailler à donner des cours axés sur l'environnement et même à replanter des arbres. Donc, il y a une dynamique qui est née. Là, vous avez raison. Mais ça prendra du temps, c'est vrai. Déjà, dans le curricula, c'est-à-dire dans nos programmes scolaires, rien de tel n'est arrivé. Mais je me rends compte qu'avec cette action, qui est un autre programme de Pulitzer Center, on est en train de parler aujourd'hui de l'environnement avec les tout petits. On est en train de parler métier vert avec les jeunes, puisque dans le temps, c'était que des ateliers avec des adultes comme moi, 45, 50 ans, qui n'ont presque plus rien à perdre, qui n'ont presque plus rien à espérer, et dont la mentalité est tellement ancrée qu'ils ne peuvent rien changer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Donc, c'est aussi aux médias, c'est là où je félicite la radio Capi, aux médias qui est l'unique, excusez-moi, qui parle de la question environnementale avec autant de tapage, c'est aux médias aussi de faire du tapage sur la question environnementale. Puisqu'en fait, c'est un instrument aussi de sensibilisation. Madame, vous avez raison sur toute la ligne. Quant au lien, si vous m'envoyez votre numéro, on peut vous donner mon numéro, je vais vous donner les liens pour accéder à ces contenus. Moi, je suis chargé de communication au centre de sciences de la biodiversité de l'université de Kisangani. Mais mon site sur lequel je loge les articles, c'est Journal Caribou. Si vous tapez Journal Caribou sur Google ou Journal Caribou TV sur YouTube, vous trouverez le contenu lié à ce que à ce sujet en train de développer ici, répondant aux questions du journaliste. Voilà, madame.
Bien, on a appris que la réserve de biosphère de Yangambi, aujourd'hui vous dites qu'on parle de du paysage de Yangambi, du point de vue biodiversité, il abritait des espèces d'arbres telles que la Formosia. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, et qui abritait aussi des éléphants, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve toujours ces espèces là-bas?
Les éléphants, je ne pense pas. Les petits mammifères, oui, peut-être. Mais les éléphants, je ne pense pas. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec la filière bushmeat, viande de brousse de l'organisation SIFO. J'ai pas beaucoup travaillé avec elle parce que la soirée était en vacances. Mais tel que je vous dis, les forêts de Yangambi, j'ai pas lu un article qui parlait des forêts vides. Les forêts de Yangambi ont été saccagées, jusqu'au niveau, en tendant vers, l'est, c'est vers Banalia. C'est quoi, on parle de paysages de Yangambi. Donc, la réserve des biosphères existe bien longtemps, on y travaille, mais on a pensé que ce n'était pas suffisant de ces unités-là. C'est la vibration des paysages de Yangambi.
Voilà, il y a quelques soucis au niveau de la communication. Nous parlons de la préservation des forêts du bassin.
Je sais que beaucoup de chasseurs du territoire de d'Isangui et même de l'Équateur, moi je les ai retrouvés plus au nord, vers plus au sud, vers Bafoussende. Vers Bafoussende où il y a beaucoup plus de gibier, puisque les paysans se sont plaints. Donc les forêts, les paysans traversent les forêts comme il n'y a pas de frontières. Franchement, les éléphants n'existaient plus à Yangambi. Je suis sûr que ça n'existait plus. Il y a trop peu de gibier. Donc, même avant l'arrivée des projets, vous pouviez ne pas manger parce qu'il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de nourriture. Mais aujourd'hui, c'est différent. Voilà ce que je voulais dire du paysage de Yangambi.
Bien, cette réserve de biosphère avait, on parlait à l'époque, de 235 000 hectares de forêt. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
La biosphère existe, on est en train de la préserver en même temps d'aller reboiser, mais on a étendu l'action en dehors de la biosphère. Et alors, dans le paysage de Yangambi, il y a la biosphère, il y a aussi les zones en dehors de la biosphère. Voilà comment il faut comprendre ça. Et toutes ces actions portent sur ça. Et bien plus, il y a un deuxième projet Forêt 2 qui va aller au-delà de ça. Vous comprenez, ça dit le projet Forêt 1, on devait s'arrêter à là. Là, c'est un programme de SIFO, on devait s'arrêter à ça. Mais ils ont dû comprendre qu'il faut aller sur le très long terme. Il y a maintenant un projet Forêt 2 qui est en train d'être mis en œuvre pour plus tard, pour sur le très long terme. Voilà comment je peux expliquer ça.
Bien, on va accueillir Charles de Lubumbashi. Bonjour, rebonjour Charles.
Très bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la préservation de la forêt?
Si nous revenons à tout moment par rapport à cette thématique, moi je pense qu'il y a un sérieux problème. Le gouvernement n'a jamais d'abord pris ça au sérieux. Le gouvernement, les autorités ne s'intéressent pas à la question environnementale. Pour eux, quand on est au pouvoir, ce sont les mines, ce sont les affaires étrangères, c'est la justice, c'est l'économie et j'en passe. Mais la question environnementale, vraiment, même si les occupent ces postes-là, c'est malgré eux. Alors, c'est ça déjà un problème. Si il devrait avoir des mesures-là incitatives, n'arrivent pas d'abord à se retrouver dans leur propre pot, parce qu'ils ne trouvent pas davantage en amont, parce qu'ils n'ont pas été formés. Ils ne savent pas les secrets qui se cachent là-dedans. C'est déjà un problème. On va continuer toujours à condamner la population. Donc la population qui n'a rien à faire dans cette situation-là, c'est parce qu'elle n'est pas incitée, elle n'est pas accompagnée par nos dirigeants qui sont censés d'abord les faire premièrement. Alors, une question à l'invité. Est-ce l'État congolais ne peut pas tout simplement accepter de confier la mission de cette gestion-là à l'UNESCO, voire même aux autres structures internationales?
cas de nos cinq parcs nationaux qui sont aujourd'hui co-gérés et par l'UNESCO et par l'État congolais. Est-ce qu'on ne peut pas aussi les faire pour, à ce qui concerne l'environnement dans son ensemble? On ne peut pas soit les confier définitivement aux structures internationales et qui ont déjà compris les secrets qui se cachent là-dedans. Vous allez voir même, à ce qui concerne l'agriculture, par exemple, c'est la dernière génération de politiciens qui fait les affaires, qui a donné quand même les goûts là aux autres politiciens pour commencer à cultiver. Pour où leur argent, c'était pour aller à l'étranger, c'était pour autre chose, même pour cultiver, c'était grave. Alors, il a fallu qu'il y ait des hommes. Et c'est pourquoi nous citons, en comprenant qu'il n'y a pas vraiment des hommes qui ont déjà compris les secrets, comme je disais, qui se cachent dans la nature, dans l'environnement. Voilà pourquoi nous continuons toujours à déplorer à tout moment. Et nous continuerons, il n'y aura pas de changement, parce que leur souci vraiment n'est pas dans ça. Ils visent autre chose une fois ils sont...
Bien, merci. Merci Charles qui propose qu'on confie la gestion de ce paysage ou de cette biosphère à l'UNESCO ou à d'autres structures au niveau international. Jean Fondi, quelle est votre réaction?
J'avais posé la question d'une certaine manière à certains analystes et moi-même j'ai fait des observations. Je comprends que je vous parlais de deux vagues hein, qui sont d'organisations qui sont venues depuis avant 2010. Celles qui sont venues en 2010 jusqu'à aujourd'hui et celles qui sont venues dans la deuxième moitié de cette décennie, c'est peut-être en train d'être fait, le mixage des expatriés et des locaux. Parce que je le trouve même dans SIFO, je le trouve même dans la Trump-Penbos, mais Trump-Penbos ne travaille qu'avec des locaux. Même le président de cette ONG au niveau national, c'est un professeur congolais, le professeur Alphonse Maindo, et franchement, il gère son projet comme il le faut. C'est tant un problème de prise de conscience que des locaux expatriés. Au fait, c'est aussi il y a une conscience qui est en train d'être prise. Mais aussi, ça c'est mon avis personnel, monsieur le journaliste, c'est que il faut aussi enseigner l'environnement aux tout petits. Il faut aussi enseigner ça dans les écoles. Il faut que les gens apprennent à intérioriser ça. C'est en train d'être fait. Vous ne pouvez pas débarquer chez des gens, même si vous êtes expatriés, des gens qui ont 60 ans, et de leur dire de marcher sur un pied, alors qu'ils sont habitués à manger sur deux. Ce sera très difficile. Et je pense que ça, c'est aussi un problème. C'est une question de plusieurs générations. Peut-être que dans notre jugement des autres, dans notre jugement de la question, bien sûr qu'il y a la part de la mauvaise gouvernance, il faut donner du temps au temps. Il y a eu un temps, c'est ce qu'un professeur m'a dit, un écologiste, c'est le professeur J.R. Makana, Jean-René Makana, que les erreurs du passé, aujourd'hui, ont aidé aux organisations environnementales qui sont venues tout récemment à comprendre la chose. Par exemple, dans la région de Pesa de Yangambi, ce n'est plus seulement le reboisement, c'est aussi du reboisement accompagné d'une étude scientifique. C'est-à-dire, on est en train de documenter chaque action du reboisement. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'il y a la tour à Flix qui va être accompagnée par l'ONG Le CAFOR, laboratoire d'écologie et d'aménagement forestier, qui vont calculer le gaz. Je pense qu'on pourra être, dans une certaine mesure, le pays pourra être à même d'être...
Voilà, il y a quelques soucis au niveau de la communication, de la liaison téléphonique. Nous parlons de la préservation des forêts du bassin du Congo dans la Tchopo avec Jean Fondi, journaliste d'investigation sur les questions des forêts. Ah, il est encore là. Oui, Jean, il y a madame Claudia tout à l'heure qui a dit pour freiner la pression sur la forêt.
Ce qui avance, c'est ça.
Oui, Jean Fondi, madame, oui. Claudia tout à l'heure a dit qu'il faut promouvoir les métiers verts qui vont attirer les jeunes et cela va aussi également aider à réduire la pression sur la forêt.
Oui, c'est par exemple quelqu'un qui plante les acacias, n'est-ce pas, qui ne coupe plus la forêt, qui coupe ses acacias, qui vend et qui ne va plus vagabonder en quête de terres nouvelles. Parce que c'est comme ça que se pratique l'agriculture itinérante sur brûlis. C'est déjà un média vert parce que ça préserve la forêt pour des générations futures. Les abeilles, on ne les achète pas. On ne les loue même pas. Les abeilles viennent d'elles-mêmes d'acacia. Bien sûr qu'il faut maintenant apprendre aux gens qui ont beaucoup de concessions dans la province. Ça, c'est vrai. Les gens ont acheté beaucoup de concessions. Ça fait des milliers d'hectares par personne. mais qui peuvent les reboiser pour espérer et prendre le crédit carbone. Ça, c'est une campagne à faire. On peut aussi leur... Il y a autant, mais je pense que ce que la police de Sainte vient de faire, c'est une première. Dire aux jeunes comment on peut développer des métiers verts. Mais ça, c'est les ONG. L'État doit faire sa part, monsieur le journaliste. Il y a toujours ça. On ne peut rien réussir de façon efficace si l'environnement au niveau général n'est pas bien assuré par l'État congolais.
Oui.
Il n'y a que l'État congolais qui doit assurer, disons, créer les conditions du développement de ce type de métier dont vous venez de parler.
Voilà. Bien. On va accueillir Arsène de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. C'est Arsène. Et bonjour à l'invité. Bon retour.
Merci, Arsène. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup pour la parole, monsieur Jody. Monsieur Jody, vous savez, les forêts sont essentielles à la régulation du climat mondial et à la protection de la biodiversité. Mais malheureusement, les déforestations causées par l'augmentation de la demande en bois, par exemple, des chauffages en charbon, constituent une menace croissante pour les forêts aujourd'hui. Maintenant, j'avais une petite question que je voulais un peu demander à l'invité. Quelles sont les solutions pour lutter contre la déforestation? Quelles sont les solutions? Parce qu'il a parlé, mais je n'ai pas entendu dans ces durs nous expliquer, nous donner des solutions pour lutter contre la déforestation. J'ai dit et je vous remercie.
Bien, merci. Jean Fundi, quelles sont les solutions à envisager pour lutter contre la déforestation?
D'abord, la déforestation, ceux qui ils ne vont plus chercher des terres nouvelles, fertiles pour faire le champ, c'est déjà réduire la déforestation, puisqu'en fait, on a un qui est là depuis 3 ans, il est sur les mêmes terres, il n'a pas brûlé, mais il est sur ses acacias en train de faire le champ. Il y a aussi les gens qui font la piscine, qui plantent les riz dans les bas-fonds. C'est des terrains marécagés, ils n'ont pas besoin de brûler, de couper les arbres, de les brûler pour planter. Il y a par exemple, dans la ville de Kisangani, même les particuliers ont pris l'habitude de planter des arbres. Si vous venez à Kisangani, il y a maintenant des avenues entières qui sont bordées des acacias. Ça, il faut le faire. Et ça, il faut le voir. Donc, quelque chose est en train d'avancer. Si vous allez le riz la Mérica, ça serait sur de terre. Bien sûr, la déforestation n'a pas pris fin. Mais ici, je suis en train de prévenir à partir de ce que j'ai vu, qu'il y a quand même un début d'action pour montrer aux gens qu'on peut cultiver sans brûler les champs, qu'on peut gagner de l'argent sans couper les arbres qui sont déjà là, qu'on peut replanter ses propres arbres et les utiliser indéfiniment pour avoir de l'argent. Ce sont des actions. Ça se résume en 2-3 mots. On est en train de sédentariser l'agriculture, la sédentarisation de l'agriculture, qu'on oppose à l'agriculture itinérable Sibouili. Et les cas de Yangambi, je vous parle de Mme Karine et de Mme Catherine et des autres que j'ai rencontrés sur leurs champs, en train de travailler sur des champs agroforestiers. Donc il y a cette action-là. Et puis quand on replante des arbres, c'est déjà lutte contre la déforestation. Puisqu'on fait 2 500 000 arbres. Et l'ONG Tropenbos doit en avoir fait pour plus de 2000 hectares dans la province. Ça fait quand même quelque chose par rapport à avant où il n'y avait rien. Et c'est ça. Et si vous allez à Yangambi, vous remarquerez que au cœur du paysage de Yangambi, il y a de moins en moins d'agriculteurs sur Bruili. C'est comme si l'INERA, qui est une structure de l'État, fait pression sur eux. Il y a de moins en moins d'agriculteurs sur Bruili par rapport à il y a 6 ans. Mais de plus vous vous éloignez du paysage, plus il y a des champs itinérants sur Willy. C'est quelque part, c'est quelque chose qui avance. Bon, pour le reste, il faut donner du temps au temps pour qu'on en arrive là. Mais bien. La lutte est bien réelle,
oui.
Elle est bien palpable et les alternatives sont là.
Bien, Jean Fundi, journaliste d'investigation sur les questions des forêts dans la province de la Tchopo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne journée et à la prochaine.
C'est à moi de vous remercier et de remercier Radio Okapi.
so bagiri ina vaga no sitama meta na rosene meta gabasene meta kusene meta wososene ni bana bana kuru bana bana kuru bana bana kuru bana bana kuru kalo saba kalo masa daraka garanti kalo saba kalo masa Tere la garanti, kalo sala kalo masa, sula garanti, eh, meta na rosene, meta kadasene, meta kusene, meta wososene, ani barana, barana kuru, banane, banane kuru, barana, barana kuru, banane, banane kuru.
Mesdames et messieurs, c'est par cette note musicale que nous mettons un terme à l'émission Okapi Service de ce jour. Merci de votre fidélité à ce programme. Jean-Claude Siala a assuré la mise en onde. Tati Mapoukou était à la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination. Miko, Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sous la fréquence de la paix. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal parlé à la présentation. Billy Van Lutumba.